J'aimerais parler d'un sujet, et je dirais que le message de ce soir est un peu une introduction à une petite série que je vais enseigner dans l'Église concernant le... Comment vous expliquer ça ? On a une difficulté, et c'est compréhensible en tant que chrétien, d'appréhender des vérités qui semblent dans un premier temps contradictoires ou difficiles à associer, par exemple, ou à discerner même. Par exemple, nous avons des fois du mal à discerner ce qui vient de la chair ou ce qui vient de l'esprit. Nous avons du mal à se placer dans l'éternité, c'est-à-dire que Dieu nous donne un appel éternel et que ce qui nous attend, ça se situe principalement dans l'éternité, mais en même temps nous avons des choses à vivre ici, et donc de concilier le temps présent et l'éternité. Nous avons du mal à faire un distinguo entre la réalité et la vérité. Alors je rappelle que la réalité, c'est ce que nous expérimentons, mais ça ne veut pas dire que nous vivons la vérité. Et c'est pas parce que quelque chose est réel qu'il est vrai. Et donc nous avons besoin de discerner ce qui est réel et ce qui est vrai. Et parfois nous avons du mal là aussi à discerner les choses. On a du mal à se mouvoir entre les expériences que nous vivons, qu'elles soient intérieures, et sentimentales, émotionnelles ou factuelles, et en même temps de vivre par la foi en fonction des promesses de Dieu, qui par définition ne sont pas encore accomplies. Donc nous vivons des choses pas toujours joyeuses, et en même temps nous avons des promesses dans lesquelles nous devons nous appuyer. Autre chose aussi, et ça je dirais que ça a toujours existé, mais je pense que c'est renforcé dans la culture dans laquelle nous sommes, qui est la culture de la superficialité. Nous avons du mal à faire un distinguo entre un mot et une réalité. La réalité du mot. Par exemple, en tant que chrétien, on peut parler de l'amour tous les jours. Mais est-ce que nous vivons l'amour ? Est-ce que nous aimons notre prochain ? On peut connaître le mot fidélité. Mais sommes-nous fidèles envers Dieu, envers les autres? Et si nous ne sommes pas fidèles, ça veut dire que nous ne connaissons pas en réalité le mot fidélité. Mais on croit connaître la chose. En fait, on connaît un principe, mais on ne connaît pas la vie. On peut aussi connaître le mot... Alors la liste peut être longue, je vous arrose là avec quelques propositions. On a du mal à faire un distinguo entre le zèle et l'enthousiasme et l'expérience du zèle. On connaît le mot, mais sommes-nous zélés pour Christ ? On peut connaître le mot engagement, mais ne pas être engagé. On peut connaître le verbe pardonner, mais ne pas expérimenter le pardon dans notre propre vie et se sentir coupable en permanence, vivre dans la culpabilité. Donc nous savons que la Bible nous parle de pardon, mais pourtant nous vivons comme un coupable. Ou alors nous avons du mal à pardonner notre prochain. Et pour résumer tout ça, la difficulté que nous avons, c'est de vivre en fonction de notre position. Notre position, elle nous a été donnée, attribuée, grâce à l'œuvre d'un autre. Pasteur Jean-Paul en a parlé dans l'introduction. C'est à cause de Jésus-Christ que nous avons la position que nous avons. Et c'est une bénédiction, c'est une grâce qui nous a été donnée, c'est une faveur imméritée, c'est un privilège. Parce que nous avons cru, nous avons une position, c'est quand même pas compliqué. On croit et on a une position. Tu veux avoir la vie éternelle ? Oui, d'accord, tu l'as. Donc c'est accessible à tous, c'est une grâce surabondante. Mais pourtant, la Bible nous encourage, principalement dans les Épîtres, mais Jésus aussi dans ses discours, et bien entendu dans l'Ancien Testament également, nous sommes encouragés à vivre dans notre position. Et c'est là où la vie chrétienne devient plus compliquée pour celui qui vit dans la chair ou dans la passivité. C'est-à-dire qu'il est au courant doctrinalement sur sa position. Il a l'assurance de son salut, il a l'assurance de la vie éternelle, il sait que Dieu est avec lui, que personne ne peut être contre lui. Donc toutes ces choses-là, il les connaît par cœur, mais pour autant, il ne vit pas selon la position qu'il a. Et c'est ça qui rend les chrétiens malheureux, Et c'est cela qui freine l'avancement du royaume de Dieu. Ce que Dieu souhaite pour notre vie, parce qu'on peut aborder la vie chrétienne, vous savez, d'une façon un peu légaliste, voici ce que nous devons faire, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut s'engager, il ne faut pas mentir, il faut aimer son prochain, etc., etc. On peut faire une liste, mais si on prend la vie chrétienne sous cet angle-là, on passe à côté de l'essence même de la vie chrétienne. Parce que si c'est simplement accomplir une liste de choses à faire, c'est une forme de loi qui nous est imposée, mais du coup, on n'a pas la position. On essaye d'atteindre la position, mais il y a comme une contradiction. On n'a pas envie de le faire, on lutte. En revanche, quand on a vraiment appréhendé et accepté la position que l'on a, on va prendre des décisions. Et du coup, ce qui nous est demandé dans les Écritures va être pour nous un guide qui nous aide à vivre dans la position que nous avons. Et du coup, cette obéissance au commandement de Dieu devient quelque chose de positif, puisque en réalité, ça nous profite aussi. C'est lié à notre position. Vous savez, en 1 Samuel chapitre 2, verset 8, vous rappelez la Anne qui était stérile, la future mère du prophète Samuel, alors qu'elle reçoit la promesse de Dieu, comme quoi elle va avoir un enfant, elle loue Dieu. Et à un moment donné, elle dit au verset 8, dans sa prière, « De la poussière, en parlant de Dieu, hein, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire, car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. » Là, ce que nous voyons, c'est que vous avez quelqu'un qui est dans la poussière, et Dieu le retire. Imaginez, hein, être rempli de poussière. En plus, la poussière parle souvent de la malédiction dans l'Ancien Testament. Vous avez des fois les prophètes qui se jettent de la poussière alors qu'ils prophétisent, et c'est une marque d'humilité et de demande de pardon. Et donc là, Dieu, en réalité, a vu notre état, et il nous a retirés de la poussière. Et ça fait évidemment référence aussi à la mort. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Donc il nous a retirés de là. En nous donnant la vie éternelle, il a permis que nous ayons dans l'éternité un corps glorifié. Nous ne serons plus poussière. Il nous a retirés de la poussière. Aussi, il retire le pauvre du fumier, il relève l'indigent. Je ne sais pas si vous avez approché du fumier de près. Imaginez, vous vautrez dans le fumier, c'est pas très glorieux comme position. Ça sent mauvais, c'est pas agréable. En plus, il y a des fumiers plus odoriférants que d'autres. Le pire, à mon avis, c'est le fumier de poule. Je peux vous garantir que ça sent très fort. Et c'était cette odeur-là qu'on dégageait devant Dieu, à cause de notre péché. Mais pourtant, il nous a retiré du fumier. Mais il nous a pas simplement retiré de la poussière ou du fumier, de ce qui était négatif, pour nous laisser après vagabonder sur la surface de la terre et en fonction du bon vouloir de chacun. Non, pour les faire asseoir avec les grands. Et c'est en cela que nous sommes décrits comme co-héritiers avec Christ, que nous allons régner avec Christ. Pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en partage un trône de gloire. C'est extraordinaire, les promesses qui nous sont présentées. Mais la question, c'est, alors que nous traversons nos journées avec nos soucis qui sont réels, problèmes de santé, problèmes d'image propre, problèmes financiers, problèmes relationnels, avec les enfants, avec un mari, une épouse peut-être, avec un collègue de travail, avec un frère dans l'église, quand on vit cela, on a du mal à appréhender le trône sur lequel nous avons été placés de la part de Dieu. Et du coup, on se dit, mais comment j'arrive à concilier ces deux choses-là? Parce qu'il y a la réalité de ma vie, et puis certes, il y a les vérités qu'il y a dans la Bible, mais ces vérités, je dois avouer que je les prends pour... Il n'y a pas beaucoup de valeur, forcément, au quotidien. Je peux savoir, par exemple, que la prière du juste, et nous sommes justifiés par Christ, la prière du juste est une grande puissance, mais est-ce que je prie? Je peux savoir les choses. C'est une vérité, la prière du juste est puissante. Mais est-ce que cette prière du juste est une réalité dans ma vie ou ça reste une vérité intellectuelle, vraie, certes, doctrinalement correcte, mais ce n'est pas une réalité. Alors évidemment, si je prends la prière comme ça, voilà, le chrétien, il doit prier. Je n'ai pas envie de prier de cette manière-là. Je n'ai pas envie de faire mes devoirs de vacances et les devoirs de la rentrée. En revanche, si je réalise que je suis couvrié avec Dieu, qu'un privilège m'a été donné, c'est ça qui va plaire à Dieu en réalité. Ce n'est pas le fait que je prie qui plaît à Dieu, c'est le fait que je collabore avec lui. C'est le fait que j'honore la position qu'il m'a donnée. Vous savez, je pense à une anecdote qui va vous paraître peut-être bizarre, mais j'ai envie de la narrer. Lorsque j'étais petit, je collectionnais les timbres. Et j'y connaissais pas grand-chose à l'époque. Et un jour, une personne, un ami de la famille, cette personne était devenue aveugle. Donc elle collectionnait plus les timbres, évidemment, parce qu'elle pouvait plus les regarder. Et pour me faire plaisir, cette personne m'a donné, je sais plus quelle était la quantité de timbres, mais elle était venue, alors qu'on l'avait invitée un dimanche midi, elle était venue avec plein de timbres. Et pour moi, c'était fantastique. Moi qui avais du mal, semaine après semaine, à essayer de trouver des timbres, de demander aux voisins les cartes postales pour récupérer, d'un seul coup, vous avez quelqu'un qui vous donne tout un paquet ou une enveloppe de timbres. Et puis, il y avait des timbres donc à l'unité. Puis, vous savez, il y avait des timbres tête-bêche, 2x2 ou 4x4. Et moi, comme j'y connaissais rien, qu'est-ce que j'ai fait dès que je les ai reçus, alors que les grandes personnes mangeaient à table, moi j'avais eu l'autorisation de me lever de table et de jouer dans ma chambre, j'ai pris les timbres, j'ai commencé à découper les timbres qui étaient assortis à 4, alors qu'en réalité, quand ils étaient par 4, ça valait beaucoup plus cher, ça avait de la valeur. Et je suis revenu tout content en disant, ah ben ça y est, j'ai trié mes timbres, je les ai classés, je les ai déchirés, enfin, découpés. Et là, d'un seul coup, il y a eu un froid autour de la table, et puis c'était pas une bêtise, je savais pas, mais en tout cas, on m'a expliqué que ben voilà, j'étais peut-être passé à côté de quelque chose. Donc, je raconte cette anecdote parce que cette personne qui m'avait donné ces timbres a pu penser peut-être que j'avais dévalorisé ce qui m'avait été offert. Mais des fois de façon inconsciente, certes, mais des fois de façon consciente, est-ce qu'on n'est pas en train de découper les timbres que Dieu nous donne, les privilèges que Dieu nous donne, les promesses que Dieu nous donne? Dieu nous donne des cadeaux extraordinaires, et nous, nous les considérons comme profanes, comme des choses ordinaires. Et ce que Dieu veut nous communiquer, c'est cette réalité qui peut devenir une vérité, c'est d'essayer de joindre ce qui est éternel et présent, ce qui est invisible et visible. Ce qui est impossible va devenir à ce moment-là possible. Vous savez, Anne a eu un fils qui s'appelle Samuel, qui a été prophète, et plus tard, ce prophète a oint David. Et nous savons que David était un roi selon le cœur de Dieu, et vous connaissez tous cette anecdote en 2 Samuel chapitre 9. Alors que le trône de David est maintenant bien assis, David se rappelle un petit peu à certaines personnes, et il se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des descendants de Jonathan que je pourrais bénir? Et donc on va trouver Méphibosheth. Alors je vous raconte l'histoire rapidement, pour ceux qui ne la connaissent pas. Méphibosheth est perclus de pied, handicapé, c'est un descendant de Saül, donc il a peur de se faire tuer par David, et puisque David est le père d'une nouvelle lignée, et à l'époque, quand une nouvelle lignée commençait, le roi de cette nouvelle lignée essayait de tuer toute la famille de l'ancienne lignée pour pas qu'il y ait de prétendant au trône. Donc c'était l'usage à l'époque, c'était normal. Et lui, David, ne veut pas savoir s'il y a des héritiers au trône ou s'il y a des descendants de Saül. Il veut savoir s'il y a quelqu'un qu'il peut bénir de la maison de Saül, qui était aussi de la maison de Jonathan. Et donc il trouve Méphibosheth, et on connaît l'histoire, ils vont chercher Méphibosheth, qui était à Lodebar. Lodebar, c'était un terrain qui, en hébreu, signifie « pas de pâturage », c'est-à-dire qu'il n'avait rien à manger, c'était un endroit désert. Et en 2 Samuel, chapitre 9, verset 13, il nous est dit « Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi, Il était boiteux des deux pieds. Donc on voit que Méphibosheth était dans la poussière, était dans le fumier, et David, type de Jésus-Christ, a été chercher Méphibosheth et l'a amené à sa table. Et imaginons un petit peu Méphibosheth ne pas vivre dans ce privilège qui lui a été donné. Alors j'essaie d'imaginer plusieurs cas de figure. Par exemple, il y a vraiment le chrétien, le croyant hyper charnel qui refuse toutes les promesses, qui n'y croit pas et qui a peur de David et qui reste à Lodebar. Comme il reste à Lodebar, il reste dans son fumier, il n'a rien à manger. Ça, c'est le chrétien très éloigné. Puis il y a peut-être le chrétien qui, lui, accepte l'idée d'être sur un sol plus favorable et qui vit peut-être à Jérusalem, mais surtout pas dans le palais de David, et encore moins pour y manger. Ça, c'est le croyant qui a accepté certaines choses dans sa vie, il s'en approche, mais il n'a pas forcément une intimité avec Christ, avec le roi des rois. Puis vous avez encore un autre, qui lui vient manger à la table du roi, mais alors habillé comme un souillon, avec encore l'odeur du fumier qui sent. Ça ferait un peu tache autour de la table. On se dirait, mais cette personne qui a le privilège d'être invitée ainsi, elle dévalorise finalement, elle fait honte à cette invitation, voire même, elle insulte celui qui invite. Ou alors, il est à la table, mais se comporte comme un vaurien et grossier. Je pense pas que ça a été l'attitude de Méphibosheth. Je peux très bien imaginer que Méphibosheth, même si ça nous est pas dit, qu'avant d'aller à table, devait s'habiller correctement, devait honorer le rendez-vous, devait être à l'heure à table, devait se comporter, pas forcément comme un grand guerrier, un homme vaillant ou un prince, mais en tous les cas, il a dû petit à petit s'habituer à être autour de la table en même temps que Joab, Nathan le prophète et d'autres, tous les princes de la maison d'Israël. Je pense que Méphibosheth n'a pas dénigré le privilège qu'il avait reçu. Alors évidemment, pour vivre dans ce privilège, il fallait qu'il fasse des choix. Et c'est là où je veux en venir, et on va arriver au point qui m'intéresse cet après-midi pour commencer cette série. C'est que d'un côté, c'est David qui avait fait les promesses, c'est David qui avait donné à Méphibosheth tous les privilèges. Mais il était demandé de la part de Méphibosheth de répondre à ce privilège. Et d'une certaine manière, ça devient une loi pour lui. C'est-à-dire, je vais habiter à Jérusalem parce que pour que je profite de ce privilège, il faut que j'obéisse à cette loi qui est d'habiter à Jérusalem, dans le palais, manger à la table du roi. Ça ne peut pas être ailleurs. Donc d'une certaine manière, c'est légaliste. Il n'y a pas d'autre option. Mais ce n'est pas lié à une loi, c'est lié à un privilège qui lui a été donné. De la même manière, il fallait qu'il arrive à telle heure à table. Il fallait qu'il s'habille avant d'aller manger. C'est-à-dire qu'il y avait des choses qui lui étaient demandées, mais en même temps, c'était pas une loi. Et en même temps, il devait passer par là. Et c'est là où j'aimerais vous amener, c'est-à-dire de comprendre qu'il y a la loi qui tue, et ça, c'est la loi de Moïse, c'est le légalisme, c'est la religiosité, et c'est pas cette loi-là que Dieu nous propose. C'est la loi de l'amour. La loi de l'amour qui fait que Méphibosheth a reçu l'amour de David pour sa propre vie, et en retour, c'est comme l'apôtre Jean l'a écrit dans 1 Jean, nous l'aimons, Dieu, parce qu'il nous a aimés le premier. De la même manière, David a aimé Méphibosheth le premier, et en retour, Méphibosheth a aimé, ou en tout cas a honoré, le roi David. Et c'est cette loi-là que nous sommes appelés à vivre, et c'est le seul moyen de concilier ce qui est éternel et temporel, d'amener la mortification de la chair au profit de ce qui est spirituel, de faire vivre des promesses futures dans notre quotidien dès maintenant, ça s'appelle l'espérance. C'est ça qui nous amène à obéir par la foi alors qu'on ne voit pas encore les choses se réaliser. Bref, c'est la loi de l'amour qui nous fait avancer et la motivation n'est plus du tout la même. Et c'est pour ça que croire que nous sommes spirituels sous prétexte qu'on a quitté le debar, c'est peut-être faux si on n'est pas à la table du roi. Croire que nous sommes spirituels parce qu'on vit à Jérusalem, on n'est plus à l'eau de bar, c'est quand même mieux. Alors ça peut être, je vais à l'église tous les dimanches, c'est quand même mieux que rien. Oui, c'est plus proche de la vérité peut-être, mais est-ce la vérité? Est-ce que la vie chrétienne que nous vivons est synonyme de simplement aller à l'église le dimanche? Ou est-ce qu'on a une soif de Dieu qui va au-delà de tout le rituel? Vous voyez, c'est-à-dire que la vie chrétienne, ça consiste à nous approcher de plus en plus du trône de la grâce, de plus en plus de Christ. Et plus on s'approche de Christ, plus on lui ressemble. Et ça, c'est l'objectif qui nous est alloué. De ressembler de moins en moins à du fumier, pour ressembler de plus en plus à la gloire de Dieu. Parce que si on analyse un petit peu notre existence, parfois, on peut se dire, mais moi j'ai envie de faire ceci, moi j'ai envie de faire cela. Alors là, je ne parle pas uniquement des chrétiens, même s'il y en a, mais ces derniers temps, je lisais des statistiques sur le temps passé sur des écrans. C'est extraordinaire, le temps que les gens passent sur des écrans. Et c'est pas pour lire la Bible, c'est pas pour lire des enseignements théologiques, c'est pas pour lire, tout simplement, même des livres. C'est pour... La fois, j'ai une sœur qui me racontait qu'elle était au bord de la mer, et les gens étaient en train de faire des vidéos pour TikTok dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils profitaient même pas de la baignade. C'est que le moment qu'ils vivaient avait comme objectif d'être sur TikTok. Les gens, je sais pas, vous allez au restaurant, vous régalez pour manger un plat, je sais pas, profiter du moment présent. Mais non, c'est, on commande un plat et tout de suite on prend photo, on le met sur Facebook, regardez ce que je mange. C'est-à-dire qu'on met en scène sa vie. C'est quand même extraordinaire. Il y a eu le témoignage, là, il y a quelques années, vous savez, l'ancien président Chirac est décédé, et pour ceux qui voulaient lui rendre hommage, ils ont posé le cercueil avec le drapeau français, et puis les gens pouvaient défiler devant, se recueillir. C'est quand même un mort. C'est un moment quand même solennel. Et non seulement les gens ne se contentaient pas de passer devant le cercueil, pour certains de prier, ou de, je sais pas, faire un petit rituel, mais beaucoup prenaient des photos. Hein, j'ai vu. Mais plus que ça, les gens faisaient des selfies. Devant le cercueil. C'est-à-dire que le plus important, c'était de montrer que j'y étais. C'était pas de montrer ce que j'ai vu. Le plus important, c'était moi. C'était pas ce qui était à côté de moi. Vous imaginez un petit peu. Mais moi, je peux vous garantir, et je pèse mes mots, que ces gens qui font que ça de leur vie, c'est du fumier. Que ça plaise ou non, je vous le dis, c'est du fumier. Du point de vue de Dieu. On n'a pas été appelé à vivre comme ça. On peut s'amuser de temps en temps, on peut en faire un de temps en temps, mais quand on est obsédé par ça, en Chine, vous connaissez la moyenne horaire passée sur TikTok par Chinois, 7 heures par jour. Alors je crois qu'il y a les enfants en moins, ils ne comptabilisent pas les enfants dans la stat. Vous imaginez? Donc ça veut dire qu'il y en a qui sont 15 heures. Et on voit, le reportage le montrait, il y avait une femme, elle faisait ses courses en regardant des vidéos, c'est-à-dire qu'elle était en dehors de la réalité. Mais la question, en tant que chrétien, est-ce que je vis à la table du roi ou est-ce que je suis encore dans mon fumier? Où j'essaye de racheter le temps pour mon ego, je rachète le temps parce que je m'ennuie, j'ai pas autre chose à faire. Là, toujours en Chine, les autorités luttent contre l'addiction des mineurs aux jeux vidéo. Et il y a un jeu qui est très très populaire là-bas, j'ai oublié le nom. Il y a 100 millions de joueurs en réseau qui jouent à ce jeu, des heures durant par jour. Et alors, les Chinois... Enfin, le gouvernement met la pression sur les entreprises, et comme les entreprises se disent, avant que le gouvernement nous tape dessus, elles s'auto-censurent elles-mêmes pour se protéger. Et donc, l'entreprise qui a créé le jeu, la semaine dernière, a limité le temps de jeu pour les mineurs à 2 heures par jour, parce que c'est les vacances, et quand la rentrée va avoir lieu, des cours, ce sera 1 heure par jour. Là, je peux vous le dire qu'il y a toute une génération qui est montée contre le gouvernement, là, en ce moment. Parce que les jeunes, ils savent pas quoi faire de leur journée. Il y a des reportages qui sont faits par la télévision et tout, mais 2 heures par jour, et qu'est-ce que je vais faire le reste de ma journée, etc. En plus, c'est que pour un seul jeu. C'est-à-dire qu'ils ont même pas envie de jouer à un autre jeu. Tellement ils sont addicts à ce jeu-là. Est-ce que c'est une manière digne d'être vécu? Ça veut pas dire que c'est un péché, que c'est des horreurs. Je connais pas ce jeu, je sais même pas ce qu'il véhicule comme idée. Mais vous rendez compte, on est réduit à ça. Est-ce que c'est une manière digne? Alors nous qui avons reçu la lumière, qui avons reçu la vérité, qui avons reçu les arts de la vie éternelle, est-ce qu'on n'est pas, nous sommes pas appelés à vivre autre chose? Alors vous allez me dire, oui, mais je me sens seul. Oui, mais je m'ennuie. Oui, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. D'abord, posez-vous la question, pourquoi vous êtes seul? Pourquoi vous n'avez pas des amis avec qui vous pouvez partager des choses? Pourquoi vous n'avez pas des activités plus créatives? Et puis aussi, on peut prier, de demander à Dieu, Seigneur, montre-moi. On peut être un adulte aussi, et dans l'église, alors on n'est peut-être pas addict au jeu, mais on s'ennuie dans sa vie, et puis on se dit, moi, ma vie, elle n'a pas d'utilité. Mais est-ce que réellement, on a prié pour ça, on dit, Seigneur, si une porte s'ouvre, aide-moi à la discerner, aide-moi à prendre ma croix, aide-moi à emprunter cette porte pour que ma vie ait un sens. Pour que ma vie ait un sens. Et peut-être qu'elle en a déjà un, d'ailleurs, ma vie. Mais peut-être j'ai besoin d'avoir un regard éclairé sur ce que je vis. Parce qu'il y a des fois des gens qui sont dans le plan de Dieu et ils vivent dans la culpabilité, ce qui n'est pas le plan de Dieu d'ailleurs. Mais en tout cas, dans ce qu'ils font, tout va très bien. Mais ils ont tellement une mauvaise image propre qu'ils ne voient même pas la bénédiction que peut constituer leur propre existence. Mais vous voyez, la vie chrétienne, c'est pas simplement de se dire « Dieu m'aime » et puis après être complètement passif. Ça s'appelle en théologie de l'antinomisme. L'antinomisme, c'est de dire, oh, puisque Dieu m'aime, puisqu'il y a la grâce, je peux faire ce que je veux, voire même, et ça ce sont les antinomistes qui y croient ça, c'est je peux même pécher, puisque de toute façon Jésus est mort pour tous les péchés, donc un de plus, un de moins, c'est pas grave. Alors, on va peut-être pas jusque là, mais il y a un peu cette idée. C'est pas grave si je prends pas de très bonnes décisions, je peux en prendre une moyenne. Allez, je quitte l'eau de bar, je suis un chrétien qui n'est plus à l'eau de bar. Hein, je vis en Judée, c'est pas mal déjà, t'as rien à me dire. Oui, mais est-ce que tu es à la table du roi? Ou est-ce que tu tends vers cette table? Vous savez, et ce sera le premier point de cette série, dans la contradiction des fois que nous avons dans notre vie, il nous est difficile de gérer la position et en même temps les recommandations, voire les commandements du Seigneur. Nous savons qu'au niveau de notre position, par exemple, en 2 Timothée chapitre 1 verset 9, il est écrit, en parlant de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Déjà, si vous aviez la possibilité de retenir ceci aujourd'hui, quelqu'un de sauvé, c'est quelqu'un qui a une sainte vocation. Point. Déjà. Alors ça met la barre assez haut. Non à cause de nos œuvres, et c'est là où ça part de la position, mais selon son propre dessein, c'est-à-dire le dessein de Dieu, Dieu qui a décidé, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc on pourrait se dire, j'ai reçu la grâce c'est-à-dire pas de mérite humain, d'avoir était sauvé et d'avoir une sainte vocation. Et en attendant, je laisse les choses se faire et je me la coule douce. Je suis chrétien, tout va bien. Et pourtant, il nous est dit en Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13, et c'est là où on a un problème à concilier ce qui paraît contradictoire. En Philippiens 2, 12 et 13, il est dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. » qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Puisque il nous a été dit par ailleurs qu'on a été sauvés par grâce, et là il nous est dit de travailler à notre salut. Ceux qui croient à la perte du salut, utilise ce verset. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et vous allez voir que dans ce verset, dans ce passage-là de Philippiens, il y a, mine de rien, une réconciliation entre la promesse et l'action de Dieu et la réponse du croyant qui est nécessaire malgré tout. Quand il est dit « travaillez à votre salut », ça ne signifie pas « sauvez-vous » ou « je ne sais pas, sauvez-vous vous-même ». Ça signifie « mener à bonne fin jusqu'au but ». C'est-à-dire que Dieu nous a sauvés pour un but. Et c'est en cela que nous devons travailler dès aujourd'hui. Nous sommes sauvés, mais pour un but. Et donc, le verbe « travailler », là, c'est « mener à bonne fin jusqu'au but », c'est « porter jusqu'à sa conclusion ». Or, la conclusion, nous savons, Romains 8, c'est de ressembler à Christ. C'est là le but. C'est en cela que, dès aujourd'hui, nous travaillons à notre salut. Lorsque nous allons mourir et que nous allons voir Jésus-Christ, l'apôtre Jean nous dit, toujours dans sa première épître, « Lorsque nous le verrons, nous serons comme lui ». Donc là, on n'aura rien à faire. Dès la résurrection, on va être comme Christ, sans nature pécheresse, terminé. Mais entre le moment où nous avons été sauvés et le moment où nous allons rencontrer le Seigneur, il ne nous est pas demandé d'attendre. Il nous est demandé, dès à présent, de travailler à notre salut, c'est-à-dire dans ce corps de mort, dans ce monde où il y a le péché, au milieu de ce combat spirituel, de suivre Christ pour lui ressembler, pour être de plus en plus à la table du roi. Et c'est en cela que nous travaillons à notre salut. Tout comme Méphibosheth, c'est pas lui qui a forcé la porte en disant à David « si tu m'invites pas à ta table, je t'égorge ». C'est pas Méphibosheth qui a obtenu ça. Ça lui a été donné. Mais une fois que ça lui a été donné, il a fallu qu'il travaille à ça. C'est-à-dire que tous les jours, il aille à la table. C'est en cela travailler à notre salut. C'est-à-dire que David, lui, il avait, je ne sais pas s'il avait signé quelque chose, mais en tous les cas, il avait donné un ordre pour que Méphibosheth soit toujours à la table du roi. C'était terminé, c'était fait, c'était accompli. Tout comme Christ est mort pour nos péchés, c'est un fait, il a payé pour nos péchés, c'est accompli, on n'en parle plus. Mais on a été sauvés du fumier pour être à la table du roi, on a été sauvés de nos péchés pour être amenés à la ressemblance du Christ, et donc Dieu n'attend que ça. Il nous l'offre, il veut nous y aider, mais ça nous demande de travailler à cela. Est-ce que vous me comprenez? Et c'est là où vous avez un bon mixte entre la position que nous avons et notre responsabilité dès aujourd'hui pour vivre la réalité du salut. Et donc, quand il écrit là, « Travaillez à votre salut, c'est mener à bonne fin ». Moi, ce que je vis dans ma vie chrétienne, est-ce que ça va dans une direction où la fin sera bonne? C'est en cela où on doit examiner sa vie. Est-ce que ce que je vis là, est-ce que ça va produire une bonne fin? Si je reste dans l'amertume et que je pardonne pas à mes ennemis, la fin va pas être bonne. Si je me sacrifie pas pour les autres, la fin ne va pas être bonne. Si je prends pas ma croix, la fin ne va pas être bonne. Si je suis égoïste, la fin ne va pas être bonne. Si je ne pense pas au royaume de Dieu, la fin ne va pas être bonne, etc., etc., etc. Et Dieu, des fois, veut nous secouer les puces en nous disant « Je vous ai tout donné, mais prenez-le. Prenez-le. » Ne laissez pas passer les heures et les jours et les années avec un christianisme mou où le monde va vous influencer de plus en plus au point que vous allez douter « Ah, pourquoi le genre, la théorie du genre, ce serait pas la vérité, Dieu aime tout le monde, pourquoi pas s'il se sent comme ça ?» Non, ça c'est une réalité mais ce n'est pas la vérité. C'est une réalité mais ce n'est pas la vérité. Dieu nous a pas créés pour qu'on change de sexe. Dieu ne se trompe pas. Je me rappellerai toujours, puisque le changement de sexe existe depuis longtemps en France, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a certaines lois qui sont très récentes, mais celle-là, les gens qui changent de sexe, et d'ailleurs, à une époque, il n'y avait que 4 chirurgiens qui étaient autorisés en France à le faire, ils étaient accrédités par la Sécurité sociale, parce que c'est payé avec nos impôts, et un de ces 4 chirurgiens était interviewé, et il avait dit: nous changeons les erreurs de Dieu. C'est intéressant parce que qu'est-ce que vient faire Dieu dans cette équation? Et je crois que c'était pas innocent. Et ça s'appelle chirurgien. Mais tout ça pour vous dire que on a besoin d'avoir nos pensées sanctifiées, purifiées par la vérité, pas par la réalité. La réalité nous souille, la vérité nous purifie. Et lorsque la vérité nous purifie, on a un impact sur la réalité. Quand la pensée n'est pas sanctifiée, on est influencé par la réalité. Donc, est-ce que vous voulez être des perdants dans la vie, ou est-ce que vous voulez être des guerriers pour la vérité? Il y a différentes causes sur la terre, mais la cause de Jésus-Christ, c'est quelque chose. Et c'est extraordinaire de penser que parfois, Dieu nous a retirés du fumier pour vivre une vie qui est complètement misérable, où certes, on n'est plus dans le fumier, mais on n'est pas très présentable. Vous savez, au verset 12, quand il dit « travailler avec à votre salut », c'est pas la justification dont il s'agit là, parce que nous sommes justifiés par notre position. Il est parlé là du salut, de la sanctification, parce que le salut nous permet d'être sanctifiés. Et c'est en cela, en fait, on pourrait le dire autrement, travailler à votre sanctification. J'ai lu un commentaire, alors c'est Vincent qui cite en fait un autre théologien qui s'appelait Wardlaw, qui a écrit ceci. Cette crainte est une défiance envers soi-même. C'est une conscience sensible. C'est une vigilance à l'égard de la tentation. C'est la crainte dont l'inspiration s'oppose au caractère hautain dans l'exhortation. C'est prendre garde à ne pas tomber. C'est une crainte constante de la séduction du cœur et du caractère insidieux et puissant de la corruption intérieure. C'est la prudence et la circonspection qui retiennent de tout ce qui pourrait offenser et déshonorer Dieu et le Sauveur. Et c'est là où on a la deuxième partie, c'est-à-dire que verset 12, c'est à nous de travailler à notre salut, ou je dirais à notre sanctification. Et au verset 13, là il y a l'action de Dieu. Verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Le verbe « produire », là, ça signifie, on le sait pour certains d'entre nous, c'est « energeo », ça signifie « agir et travailler efficacement ». C'est-à-dire que c'est Dieu qui agit en nous, et ça a donné le mot « énergie » en français. Et donc, c'est Dieu qui produit ou qui énergise, si je devais inventer un verbe, le vouloir. Et là, le vouloir, on pourrait remplacer plutôt par le mot « désirer ». C'est Dieu qui, par son énergie, produit le désir, produit le vouloir. Mais ce qui est très intéressant et peut-être même étonnant, c'est un vouloir plus émotionnel qu'intellectuel. Et regardez comment ça fonctionne. Verset 12, il y a la connaissance intellectuelle. Je dois travailler à mon salut, je dois m'humilier, je dois prendre ma croix, je sais ce que Dieu attend de moi. Ça, c'est l'intelligence. J'obéis par la foi. Par exemple, prenons quelqu'un qui va jamais à l'église. D'un seul coup, Dieu le réveille spirituellement, lui dit « t'as besoin d'aller à l'église ». La personne vit des moments difficiles, elle réalise qu'elle s'est éloignée trop de Dieu, qu'elle n'entend pas assez la vérité. Donc voilà, elle se remet en question, elle dit « voilà, maintenant, au moins tous les dimanches, je vais à l'église ». C'est une décision intellectuelle qui est basée sur des faits, qui est basée sur la doctrine. C'est évident que c'est la volonté de Dieu d'assister au rassemblement des saints et d'écouter la parole de Dieu. Donc il y va. Ça c'est le verset 12. Il travaille à son salut. Verset 13. Parce qu'il prend cette bonne décision par la foi, alors qu'il n'en a peut-être pas envie, l'énergie de Dieu produit le vouloir dans ses émotions. Et donc, il va commencer à vivre la joie de son salut, la paix de l'esprit. Et donc, il va être béni dans le sens où il va vivre quelque chose dans son être intérieur, dans ses émotions, qui vont à l'encontre de ce qu'il vivait peut-être quelques minutes avant. C'est Dieu qui va approuver. Et ce qui fait que, chose qu'il n'avait plus envie de faire depuis des mois ou des années, aller à l'église, d'un seul coup, parce qu'il a décidé de prendre sa croix et d'obéir par la foi, Dieu prend le relais, il produit le vouloir et le faire. Vous voyez comment ça fonctionne? Alors que les antinomistes ou les chrétiens qui ne comprennent pas ce que c'est que la grâce de Dieu vont dire « Oh mais moi j'ai pas envie d'aller à l'église, mais de toute façon, Dieu me montrera, et puis voilà, je prends aucune décision. Ça ne marchera jamais comme ça. Dieu vous fera toujours passer par le chemin de l'humilité, par la repentance, par le fait de plier un genou. Et d'utiliser la doctrine en disant « Moi, je m'attends à Dieu, Dieu est bon, Dieu est gracieux », ça ne marchera pas. Vous devez prendre des décisions. Vous avez un problème dans votre existence aujourd'hui ? Un péché caché ? Il peut être caché devant tous, mais pas devant Dieu. Vous n'avez peut-être pas envie d'arrêter ce péché. Obéissez par la foi et Dieu produira le vouloir et le faire. Il ne va pas vous donner le vouloir et le faire avant. Il va vous demander de vous tourner vers lui. Et il va produire le vouloir et le faire. C'est le chemin de l'humilité. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas lâcher prise simplement et laisser Dieu faire. Oui, parfois il faut lâcher prise dans certains domaines. Mais en réalité, ce que Dieu nous demande, c'est d'entreprendre des choses avec lui. C'est bien différent. C'est pas « je suis le fataliste » et puis, bah, comme disent certains, « Inch'Allah ». Non, c'est « Dieu le veut ». C'est pas « Dieu voulant » non plus, hein, qui est le pendant de « Inch'Allah » souvent. Hein. On se voit dimanche, « Dieu voulant ». Non, on se voit dimanche. Bien sûr que « Dieu voulant », on le sait, mais tout est « Dieu voulant », de toute façon. Tout. Mais c'est dans le sens où je prends une décision avec Dieu. Dieu veut, mais moi je veux aussi. Donc c'est pas le fatalisme, c'est je prends une décision avec Dieu. Je participe, je coopère avec Dieu. Et c'est ça qui plaît à Dieu, c'est cette coopération. Dès qu'on arrête de coopérer, on ne plaît pas à Dieu. Nous ne sommes pas appelés à être des passifs. Nous sommes appelés à être co-ouvriers avec Christ. Alors, ça peut être dans des domaines, des ministères, dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, la mission, tout ce que vous voulez, mais c'est même dans notre maison, dans nos propres pensées même. Je vais coopérer avec Dieu dans mes pensées. Vous savez, plus j'avance dans la vie chrétienne, plus je réalise qu'en réalité, et pourtant ça m'a été enseigné plus d'une fois, pasteur Stevens le rappelait plus d'une fois, alors je le croyais, et j'ai marché dans ses vérités du mieux que je pouvais, et maintenant je peux encore plus dire aujourd'hui qu'hier qu'il avait raison. C'est que tout se situe dans nos pensées. Tout se situe dans nos pensées. Tant qu'on n'a pas la paix dans nos pensées, le reste, ce n'est que du formalisme. C'est incroyable de voir le nombre de chrétiens qui vivent dans la culpabilité, qui vivent en se cachant des autres parce qu'ils commettent des péchés, qui vivent dans l'hypocrisie et dans un esprit de duplicité, qui vivent dans la frustration. C'est quand même triste de vivre ainsi. Alors que Dieu nous a donné la vérité et la vérité nous a franchis. Elle nous a franchis. Marchons dans cette vérité, vraiment. Et Kenneth Twist a fait une traduction personnelle de ce passage de Philippiens, qui est intéressante. Il est écrit « C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais maintenant bien plus en mon absence, amenez votre propre salut à sa conclusion ultime, avec crainte et tremblement. Car Dieu est celui qui constamment propose sa puissance en vous, tant pour constamment vous rendre désireux de le faire, que pour constamment vous mettre en œuvre selon son bon plaisir. Celui qui constamment propose sa puissance en vous, tant pour constamment vous rendre heureux et désireux de le faire, que pour constamment vous mettre en œuvre son bon plaisir. » Vous savez, Mephibosheth, ce qui lui était demandé, c'était d'accepter sa nouvelle position. Mais pour vivre sa nouvelle position, il fallait sa coopération. La position, c'est David qui l'a donnée, mais vivre la position dépendait de Mephibosheth. C'est Mephibosheth qui devait accepter cette position. Et pour cela, il fallait l'obéissance. Et parce que son obéissance était active, qu'est-ce que cela produisait ? L'accueil de David, l'accueil des hommes vaillants, j'imagine qu'ils n'ont pas dit quand il arrivait, « Bon, allez, taisez-vous, c'est Mephibosheth qui arrive. » Ou alors, « Oh, il faut lui laisser une place. » Non, ils devaient se réjouir de le voir arriver. Et bien, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Parce que nous prenons la décision de coopérer avec Dieu, cela produit une énergie en nous de la part de Dieu, c'est-à-dire la joie de notre salut qui fait qu'on se sent accueilli dans le bien-aimé. Et ça nous fait avancer de plus en plus et nous encourage. En fait, l'énergie de David a produit une bonne volonté de chez Mephibosheth et aussi dans son cœur. Donc mes amis, on continuera cette série pour parler des promesses ou de l'œuvre de Dieu dans notre vie et en même temps des versets qui semblent contradictoires où il nous est demandé de faire quelque chose pour bénéficier de ces promesses. Et nous verrons ensemble comment ça fonctionne. Oui, nous avons une position, mais oui, nous devons vivre cette position. Et ça, c'est un choix. Que Dieu vous bénisse.